at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'Université Sorbonne Nouvelle. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter bien évidemment une très heureuse nouvelle année, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous vous portez au mieux en cette fin janvier, malgré un contexte politique et sanitaire qui laisse franchement à désirer. De notre côté, pour cette première émission de 2022, nous accueillons parmi nous Hugo Trélis, qui est éditorial game designer chez Ubisoft, mais qui prépare également une thèse sur les rapports sociaux de genre dans l'industrie du jeu vidéo, et ce sera le sujet de notre entretien tout à l'heure. Salut Hugo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation.
Salut.
Cette émission de janvier marque également le lancement de notre troisième et dernière chronique trimestrielle et cette fois-ci, après Cindy et Thaïs, nous accueillons Beyond Games qui anime depuis 2019 la chaîne YouTube du même nom sur laquelle il publie des vidéos sur des thématiques à la fois personnelles et originales et si je peux me permettre une seule recommandation, allez voir la vidéo qu'il a consacrée aux figures maternelles dans le jeu vidéo, elle est vraiment passionnante. Bref, salut Beyond et bienvenue dans l'équipe.
Salut tout le monde.
Quelle thématique vas-tu aborder dans tes chroniques, Beyond ?
Alors, moi, pour mes chroniques, je vais essayer de partager quelques réflexions personnelles que j'ai eues autour du jeu vidéo AAA, donc en gros les jeux vidéo à gros budget. Et l'idée, ça va être de se questionner sur certaines thématiques précises du AAA pour peut-être anticiper leur futur, ou du moins imaginer le futur que j'aimerais avoir. Et donc l'idée, c'est que sans forcément apporter des réponses claires, j'espère pouvoir semer des graines de curiosité sur certains aspects de ce genre de production, que l'on soit adepte du genre ou non.
Ok. Ok, bah ça m'intrigue beaucoup, j'ai hâte d'entendre ce que tu auras à nous dire ce mois-ci et la prochaine fois en avril. Au programme de ce mois-ci, comme d'habitude, Liz interviendra la première et ce soir elle va nous parler de If on a Winter's Night for Travelers. Beyond prendra ensuite le relais avec sa première chronique sur le AAA, puis Alexandre nous fera sa recommandation du mois. Après ça, il sera temps de passer à l'entretien avec Hugo avant d'enchaîner avec la chronique de H. Et pour finir, comme prévu, le blind test vidéoludique de ce mois de janvier sera assuré par Liz. Et sans plus attendre, Liz, je te cède la parole.
Merci Jean. 1929. Quelque part en Asie centrale, dans un train perçant le froid de l'hiver, un homme masqué erre dans un wagon, un peu désorienté. Une femme dénommée Layla, masquée également, l'interpelle. L'homme lui raconte qu'il n'a aucun souvenir de son arrivée dans le train et commence à évoquer les dernières choses dont il se rappelle. Un nouveau décor prend place alors. Voici comment débute If on a Winter's Night, Four Travelers, si par la nuit d'hiver, quatre voyageurs, un jeu sorti l'an dernier et réalisé par Laura Hunt pour le développement, l'écriture et la bande-son. Elle est accompagnée de Thomas Meuring pour la partie direction artistique en pixel art et l'animation. Ce point and click prend presque la forme d'une anthologie, empreinte d'un certain mystère et d'une certaine noirceur, avec des éléments empruntés au genre de l'horreur. On y suit l'histoire de plusieurs passagers du train, Carlo, Lady Winterbourne et le docteur Jordan Samuels. Le jeu de Laura Hunt m'interpelle ici car son nom fait écho au titre d'une œuvre littéraire, Si par une nuit d'hiver, un voyageur, un roman d'Italo Calvino. C'est un auteur italien assez prolifique du XXe, et ce roman est en lui-même très particulier. Il s'agit d'un enchâssement de récits où l'auteur s'adresse directement au lecteur, avec un L majuscule et au masculin, pour lui dicter ses actions dans l'histoire principale. Le lecteur lira des débuts de romans qui seront toujours inachevés ou dont il ne pourra jamais poursuivre la lecture. En cherchant la suite de ces romans, il tombera à chaque fois sur un écrit différent. Au total, le livre se décompose en 11 fragments, chaque fragment alternant entre le récit cadre, avec ce personnage du lecteur, et l'incipit de ces romans abandonnés. C'est une œuvre labyrinthique qui interroge le genre du roman. L'utilisation de la deuxième personne du singulier, plutôt rare dans ce genre littéraire, permet d'interpeller le lecteur sur certaines techniques de l'auteur. Si tu n'as pas pu t'empêcher, lecteur, de me remarquer parmi les voyageurs qui descendaient du train, c'est seulement parce que mon nom est moi, tu ne sais rien d'autre de moi, mais cela suffit pour te donner le désir d'investir dans ce moi inconnu, quelque chose de toi. Le mélange des deux pronoms crée une confusion entre lecteur, auteur et narrateur. On sort du cadre et on re-rentre dedans en permanence. Un peu comme dans le jeu de Laura Hunt, dont on peut considérer qu'il y a cette fois-ci trois fragments. On va retrouver cette alternance entre le récit cadre qui prend place dans le train en marche et les souvenirs des trois personnages dans différents contextes. L'introduction du jeu demeure proche du premier fragment de Calvino qui débute en hiver dans une gare où on suit un personnage qui ne sait pas ce qu'il fait là. Je cite « Le roman commence dans une gare de chemin de fer, une locomotive souffle. Un sifflement de piston couvre l'ouverture du chapitre, un nuage de fumée cache en partie le premier alinéa. Peu après, le narrateur indique qu'il n'est pas sûr de ses intentions. Tout ne va manifestement pas comme je voudrais. Retard ou erreur, j'ai manqué une correspondance. J'aurais sans doute dû rencontrer en débarquant un contact. Les trois personnages ne savent pas non plus ce qu'ils font dans le train. Le docteur Samuels s'interroge. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que nous, ne devrions pas être là. Et la comparaison s'arrête ici. Les noms des personnages et leurs histoires n'ont rien à voir avec le roman de Calvino. Carrie for a Winter's Night for Travelers n'est pas une adaptation, mais plutôt un hommage, un clin d'œil, explique la créatrice. L'influence du roman se ressent surtout dans la structure narrative utilisée, et Laura Hunt glisse des références à l'auteur à plusieurs reprises dans son jeu. La première histoire se déroule en Italie, à Rome. Dans le récit du docteur Samuels, on passe toute une séquence dans une bibliothèque avec de nombreux ouvrages d'auteurs et d'autrices connus, dont Calvino, que le personnage déclare ne pas connaître. Même chose pour Lady Winterbourne quand elle trouve sur une étagère un extrait du livre avec le chapitre « Sans craindre le vertige et le vent ». Elle dit après avoir lu l'extrait « cet auteur ne me dit rien. Un Italien ?» Laura Hunt joue ici sur un anachronisme puisqu'en 1929, Italo Calvino avait 6 ans. Et plus généralement, le jeu est pétri de références littéraires explicites et implicites. Sur le chevet de Lady Winterbourne, on trouve « À la recherche du temps perdu », son livre préféré, et l'épilogue du jeu s'achève sur un quatrain de la poétesse américaine Emily Dickinson. Le format court de chaque histoire rappelle les nouvelles macabres et fantastiques d'Edgar Allan Poe, la rencontre du docteur avec des créatures d'un autre monde a quelque chose de très Lovecraftien. Lady Winterbourne est elle-même un reflet de personnage féminin typique de la littérature romantique, une femme diaphane, frêle, malade, elle est presque une apparition fantomatique. If on a Winter's Night est un jeu riche, avec une histoire intrigante qui capte vite notre attention, le tout servi par une direction artistique superbe et gratuitement.
Merci pour ta chronique, Lys. Est-ce que par hasard quelqu'un avait entendu parler déjà de ce jeu ou l'avait fait? Beyond?
Oui, moi tout à fait, je l'ai fait l'année dernière aussi à peu près à la période de sa sortie parce qu'il a fait un peu de petit bruit autour de lui et... Je voulais d'abord remercier Alice parce que tout l'aspect lié à la littérature dans le jeu est pas très clair si on connaît pas les livres et c'était très intéressant. Et surtout, je recommande à fond ce jeu que je trouve vraiment incroyable, surtout quand on sait qu'il est gratuit et qu'il est fait par uniquement deux personnes. À titre personnel, je trouve que c'est un des plus beaux pixel art que j'ai vu. Il y a vraiment des scènes qui m'ont vraiment bluffé. Et si vous l'avez pas compris aussi, je précise juste deux petites choses, que le jeu, il a des thématiques très très dures parfois. Il a des thèmes très sombres, donc si vous êtes sensible à certains sujets, faites gaffe quand même.
Je peux aller dans ton sens, j'avais aussi beaucoup, beaucoup apprécié le jeu, que j'ai trouvé à la fois très joli et mais surtout très fort en termes de narration. Et on n'a pas grand-chose à faire, en vrai, c'est plutôt une expérience narrative, mais c'est vraiment très chouette, et en effet, grâce à Liz, j'ai pu comprendre un peu quels étaient les rapports avec l'ouvrage de Calvino que je n'ai pas lu.
Bah merci pour la chronique, le jeu a l'air hyper cool, enfin je connaissais pas du tout, donc c'est une découverte pour moi et du coup ça m'interpelle aussi la référence à Calvino parce que j'ai l'impression que c'est un auteur qui est énormément cité par les designers et les game devs en général et du coup je suis assez curieux de savoir ce qu'il retourne dans le jeu. Donc en tout cas merci pour la découverte.
Ash, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, j'ai l'impression que je suis un peu aussi une des seules qui a pas sauté sur le jeu alors qu'il était dans ma liste sur Itch.io depuis que tout le monde en a parlé au moment de sa sortie. Du coup, je savais pas du tout que c'était une adaptation de Calvino. Et c'est vrai que pareil, je vois souvent Calvino cité par des designers. Et c'est vrai que du peu que j'en ai lu, c'est effectivement un auteur qui a l'air très intéressant à adopter en jeu vidéo. Il a ce côté un peu rigolo de beaucoup jouer avec la forme, et en même temps, c'est pas une forme qui va contre le fond, mais comme j'imagine, vu que j'ai pas lu le livre original, mais oui, où il joue beaucoup justement avec la forme, mais en même temps, ça va toujours soutenir le récit plus que clasher avec, etc. Et du coup, je trouve que c'est un auteur très intéressant, effectivement. Même si je le connais pas encore néanmoins. Du coup, j'irai voir ça.
Bon, merci encore pour ta chronique, Lys, et il est maintenant temps de passer le micro à Beyond pour sa première chronique trimestrielle au sujet des jeux AAA. Beyond, c'est à toi.
Merci Jean. Alors d'abord, pour commencer, je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et The Last of Us 2? Pendant que vous réfléchissez à cette question, laissez-moi vous raconter un peu mon rapport que j'ai au AAA. Pour faire simple, ma consommation a de plus en plus baissé au fil des années. Sans compter les histoires de budget et de temps de jeu qui sont réelles, la raison est plus évidente, cela m'attire de moins en moins. Depuis plusieurs années maintenant, je me retrouve plus trop dans la proposition AAA moyenne, à base de loot, de camps à vider, de systèmes de combat sans surprise, de maps à découvrir avec une tour. Bref, vous voyez le truc. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions. Doom 2016, ça a l'air incroyable, God of War m'avait bien convaincu malgré ses soucis, et Elden Ring me promet déjà des heures de jeu passionnantes. Mais ce sont trois autres jeux qui m'ont particulièrement interpellé ces dernières années, et ce sont bien entendu Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et The Last of Us 2. Alors si comme point commun vous m'avez cité que ce sont trois jeux au budget complètement ahurissant, vous avez effectivement raison. Si vous avez aussi pensé au fait que ce sont trois jeux qui ont subi un développement infernal à base d'heures supplémentaires ou d'employés maltraités pour tenir des délais complètement en dehors des réalités, bravo, vous avez encore visé juste. Mais le point commun qui m'intéresse ici est le suivant. Ce sont tous des jeux monstres, des énormes paradoxes. Parce que là où la majorité de l'industrie se concentre sur le fun et l'action immédiate, avec plus ou moins de réussite, ces trois jeux essayent de proposer par moment des choses un peu différentes en plus, des phases plus ancrées dans nos réalités. Je m'explique. Red Dead Redemption 2 est un monstre à nous montrer son monde ouvert rempli de gunfights interminables ou de missions qui n'ont rien à envier au Far West du cinéma. Et pourtant, il ne m'a jamais autant marqué que dans les moments où on se retrouve au milieu d'un feu de camp à écouter nos amis que l'on suit tout au long de cette aventure. Ou encore, quand on prend son temps le matin pour une activité aussi simple que boire son café en écoutant les conversations du camp. The Last of Us 2 est un jeu qui se base sur la vengeance et sur l'escalade de la violence, mais il n'est jamais aussi marquant que dans des scènes non violentes, comme ce magnifique flashback dans un musée, qui se conclut par ce beau moment d'imagination dans une fausse fusée. Le DLC du premier jeu est d'ailleurs rempli de ce genre de scènes non violentes. Enfin, Cyberpunk 2077 est un monstre de budget qui se déploie en face de nous avec sa ville de Night City et ses gratte-ciels gigantesques. Et pourtant, il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est à échelle humaine, quand il nous développe des relations avec des personnages variés, qui doutent, qui ont une famille, qui aiment jouer de la musique ou qui s'inquiètent de leur avenir. Ce sont trois AAA très basiques dans leur mécanique de jeu, mais qui m'ont marqué parce que les scènes les plus importantes sont pour moi celles où il n'y a aucun combat. Le paradoxe étant qu'on incarne toujours un ou une combattante aguerrie, et pourtant, ce sont des moments très humains qui sont marquants. Alors certes, l'utilisation d'une narration plus importante pour rythmer un jeu, c'est pas nouveau, hein. Mais j'ai l'impression que ces dernières années, cela s'évoue de plus en plus, et surtout sur des thématiques plus ancrées dans le réel. C'est particulièrement visible si on compare Uncharted 2, purement action, avec des moments de contemplation des décors, face à Uncharted 4, qui possède des scènes plus intimes où on nous parle de relations ou d'abandon des rêves. C'est aussi le cas avec les jeux God of War. Dans la trilogie originale, Kratos est un guerrier sans merci sanguinaire. Et dans le reboot, il est un guerrier sans merci sanguinaire, mais plus vieux, et sa paternité est un des thèmes de jeu, même si ça reste pas spécialement incroyable à mon goût. Et la question que je veux donc poser est la suivante. Quand est-ce que les AAA embrasseront enfin ces thématiques plus humaines pour innover et faire des jeux où on a une narration importante, sans pour autant se bastonner à tout va? Encore une fois, hein, les systèmes de combat c'est trop cool, hein. C'est efficace, ça marche bien, mais à force, on les connaît, et j'adorerais voir des choses nouvelles. Et je me demande sincèrement si le AAA va tenter de nouvelles choses cette génération. Bon, je vais être honnête, hein, j'y crois pas trop, car le marché restera dominé par FIFA, Fortnite et consorts. Mais peut-être qu'on verra quelques jeux tenter de nouvelles choses, comme Death Stranding qui, malgré des phases de gunfight nullissimes, va au fond de ses idées quant à son cœur de jeu, basé sur la randonnée. Bref, la génération PS3 360, c'était l'aboutissement d'une formule d'action rythmée, la génération PS4 et One, c'était un approfondissement de cette idée, avec une narration plus importante. Pour la prochaine génération, j'espère bien découvrir de nouvelles choses, des propositions à une échelle plus humaine, et qui, je l'espère, respecteront aussi les êtres humains qui créent ces jeux.
Merci beaucoup Beyond, pour cette première chronique. Est-ce que quelqu'un partage les espoirs de Beyond, et quel serait est-ce que vous seriez optimiste sur ce renouvellement du AAA?
Ouais, alors je suis pas du tout une experte des AAA, mais les nouvelles choses là qui sont sorties l'année dernière sur PS5, j'ai l'impression que c'était plus un approfondissement de ce qu'il y avait déjà. Enfin, pour l'instant, on n'a pas vu de choses nouvelles, mais je pense que oui, peut-être la sortie d'Elden Ring va peut-être apporter des choses un peu de nouveauté sur le tapis, mais je suis pas sûre que la formule change beaucoup par rapport à ce qu'on a vu par le passé. Donc je suis peut-être un peu pessimiste, mais j'ai pas la sensation que ce soit ce vers quoi tendre. Ce quoi vers tant l'industrie pour le moment.
Ouais, je suis plutôt peut-être encore plus pessimiste que Lys en disant que pour moi on stagne clairement sur pas mal de points côté AAA, et je suis pas sûr que ça va s'arrêter en fait avec enfin pas tout de suite, personnellement je miserais sur une vraie évolution, sur une fin de génération, et on est qu'au début, donc on en a encore pour 10 ans quoi. Même si beaucoup de studios pensent révolutionner le jeu vidéo avec les NFT, mais ça c'est pas vraiment une avancée dans le bon sens, on va dire. Mais je voulais surtout dire bravo à Beyond pour ta première chronique. C'était vachement bien. Voilà.
Merci, merci.
H, je suis sûr que toi, tu es très optimiste, comme d'habitude.
Oui, très. Absolument pas. En vrai, je suis d'accord avec les constats de base de la chronique. Genre, Red Dead, c'est un jeu qui m'a... auquel j'ai énormément accroché, et justement il a été pas mal critiqué pour son rythme très lent, ses animations qui prenaient du temps, c'est pas un jeu très réactif, etc. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément prise dans le jeu, et qui était très très agréable à jouer. Et en même temps, ouais voilà, j'ai un peu de pessimisme, tout bêtement, parce que, enfin, bah, il y a pas mal d'observateurs de l'industrie qui le disent, les triple A, ça va, enfin, vu que avec les budgets qui augmentent, ils vont sûrement aller de moins en moins vers l'innovation, et de plus en plus vers la continuation de, enfin, ouais, vers les franchises, vers la continuation, vers cette espèce de recyclement et de stagnation. Et puis, enfin, ouais, voilà, même on voit Cyberpunk, on voit même que Cyberpunk, c'était plus un espèce de gloubi-boulga de plein d'idées qui plaisent dans le triple A. C'était littéralement, voilà, un GTA Cyberpunk, plus qu'autre chose, et qu'en fait, ces moments, justement, pour moi, ces moments intéressants qui étouffent dans 20 000 trucs qui sont un peu obligés par le reste, c'est justement le problème du triple A, où ça va... Enfin, voilà, le problème du budget et de la pression et des investisseurs qui étouffent justement tout ce que le jeu va vouloir insuffler de plus humain. Et après, d'un certain côté, j'étais aussi un peu en désaccord sur un autre point, c'est que c'est pas... Autant je suis parfaitement d'accord dans un sens, autant je sais pas si enlever la violence ou se décentrer de la violence, c'est réellement la solution. Comment dire ça? Parce que des triple S en violence, on en a. C'est les Quantic Dream. Et c'est pas forcément la joie non plus. Et je pense que justement, ce qui est plus important, c'est qu'il n'y a pas des idées forcément très intéressantes qui sont exprimées et qui se retrouvent dans ces conflits, dans cette violence, etc. Et qu'au contraire, ces idées sont plus insufflées dans les trucs à côté. Et qu'au contraire, on peut exprimer, raconter des conflits et de la violence en construisant quelque chose de très intéressant aussi. Et voilà. Mais en vrai, c'est pas spécialement du pessimisme, parce que c'est des trucs que je vois se faire de plus en plus dans l'indé. Y a même des trucs... Enfin voilà, il y a de plus en plus de jeux à moyen budget qui sont vraiment des expériences extrêmement dédiées à ces... assez à côté, assez, enfin voilà, qui au lieu de se dédier à du combat et de mettre des à côté intéressants, se dédie vraiment à ces à côté, dédie le gameplay, dédie tout le développement à tout ça, et du coup je suis très contente de comme elle est, de comme l'industrie est. Je joue au triple A pour m'amuser, je regarde à côté quand j'ai envie de regarder à côté, et voilà.
Une position pleine de sagesse. Merci beaucoup H pour ton retour. Il est temps de passer à la suite, et c'est au tour d'Alexandre de prendre la parole pour sa recommandation de janvier. De quoi tu nous parles ce mois-ci, Alex ?
Alors avant de commencer, j'aimerais rectifier quelque chose que j'ai dit le mois dernier. En effet, je vous ai dit que mon GOTY 2021 était Halo Infinite, tant que je n'avais pas joué au DLC de FF7 Remake. C'est chose faite, et je peux maintenant vous le dire, FF7 Remake Intermission est mon GOTY 2021. Maintenant que c'est évacué, je dois vous raconter un truc. Au début du mois, j'étais trop content d'être en janvier. Un mois tranquille où je serai pas trop en déplacement pour le travail, et donc un mois pour rattraper les jeux que j'ai trop longtemps laissés de côté. J'avais même prévu de vous parler de Backbone ce mois-ci, mais c'était sans compter sur les soldes de l'Epic Game Store et de ce groupe de copains avec qui je joue presque tous les mardis soirs depuis maintenant un an. Moi, ces copains, je leur fais entièrement confiance sur le choix des jeux de nos parties, et on m'a donc demandé d'acheter un jeu soldé, avec un bon de 10€ de l'EGS en plus. C'est pour très peu cher que j'ai ouvert les portes de l'enfer, Satisfactory. Pensez Minecraft, mais pour les adultes et les capitalistes. Dans Satisfactory, vous êtes envoyé sur une planète inconnue pour y monter une usine, au début, qui exploitera les ressources de la dite planète. Fer, cuivre, charbon, soufre, tout doit y passer. Il vous faut alors récolter les minerais, d'abord à la main, puis avec une foreuse automatique, fusionner des petits trucs pour en faire des plus gros, et fusionner des plus gros trucs pour en faire des trucs encore plus gros. Mais le vrai défi, c'est l'automatisation. Le but de ce jeu, c'est vraiment de tout automatiser au maximum. Alors on a commencé à y jouer sur un serveur de 7, en jouant beaucoup ensemble, mais aussi beaucoup à des heures différentes. Et autant dire que ça peut avancer très très vite, et qu'en allant me coucher un soir, je ne m'attendais pas à retrouver la base complètement changée le lendemain matin. J'ai donc décidé de faire ma petite partie solo, tranquille, où je ferai ce que je souhaite, et surtout à la vitesse que je veux. Satisfactory s'est transformé en un jeu très satisfaisant. J'ai fait sur papier mes petits schémas, ensuite je les crée dans le jeu, je fais des usines un peu stylées sur plusieurs étages, j'y passe des heures. Et ça fait des mois que je m'étais pas autant amusé sur un jeu vidéo aussi longtemps. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, ma partie est lancée en fond et le minage continue. Alors voilà, moi qui voulais jouer à plein de petits indés que j'ai pu rater l'an dernier, comme le plébiscité Inscription, je suis tombé dans l'enfer d'un jeu de gestion qui me plaît énormément. Et si vous voulez y jouer, c'est encore en Early Access, c'est disponible sur Steam et l'Epic Game Store. Alors venez en enfer avec moi, s'il vous plaît. Et surtout, ce que je voulais savoir, pour terminer, cette petite recommandation, c'est est-ce que vous aimez ce genre de jeu ici, des petits jeux de gestion comme ça, ou alors vous avez été dégoûté par le genre, un peu comme moi, à 12 ans, après une overdose de Minecraft?
Merci pour ta chronique déjà, Alexandre, elle était très cool, et merci d'en avoir parlé un petit peu, parce que enfin, de Satisfactory, parce que j'en avais entendu parler, mais je m'étais pas vraiment penché sur la question, en me disant que ça allait pas me plaire. Et en effet, vu que tu poses la question, généralement je trouve ça chouette au début, je peux trouver ça cool, et puis je vais jouer 3-4 heures, puis après ça va me gonfler, et je me dis que je vais y passer des heures, et que ça va pas avancer, et que... voilà. Donc généralement je trouve ça rigolo 5 minutes, et puis après je me lasse assez vite, donc je pense que je ne m'y jetterai pas.
Oui, avant de rebondir sur ta chronique qui était très cool, je voulais juste savoir, il y a une sorte d'objectif dans le jeu où c'est un peu comme dans Minecraft, t'es lâché dans un univers et il te dit juste, ben voilà, t'as tes outils, maintenant amuse-toi.
Alors là, il y a des objectifs. On joue à un colon, un ou une d'ailleurs, c'est jamais précisé, qui travaille pour une boîte qui s'appelle Fixit. Et qui juste nous envoie sur la planète et nous dit bah voilà, on t'a envoyé avec de quoi créer un hub, donc un premier préfabriqué, on va dire, avec un établi et une petite navette pour envoyer des ressources au vaisseau spatial que je n'ai jamais vu. Je sais pas si on le voit à un moment dans le jeu, mais en tout cas moi je l'ai jamais vu encore. Mais du coup ouais, toutes les recettes de craft se débloquent à chaque jalon, donc l'objectif c'est d'aller au jalon d'après jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors que Minecraft, tu peux vraiment tout faire.
D'accord, parce que moi justement, ce genre de jeu, je suis un peu comme Jean, en fait, je m'amuse beaucoup au début, et puis en fait, très vite, comme j'ai pas d'objectif précis, je perds assez vite de l'intérêt. Récemment, j'ai fait Astroneer, qui a des concepts un peu similaires, et dès que j'avais accompli l'objectif d'aller au centre de la planète, bah, j'avais plus trop envie de continuer. Donc ouais, ce genre de jeu, je trouve ça cool, mais... c'est très dur de m'accrocher longtemps. Je crois que celui qui a réussi à le plus m'accrocher, même si c'est pas du tout comparable, pour moi ce qui s'en rapproche le plus, c'est Stardew Valley, parce que il fallait parler avec des gens trop trop cool, et c'était trop bien Stardew.
Lise, tu voulais réagir aussi sur le sujet?
Oui, rapidement du coup, vu ce que t'en décris, ça me fait penser un peu à No Man's Sky, mais peut-être que je suis un peu à côté de la plaque, et je dirais que c'est pas le genre de jeu qui m'attire comme ça, mais quand j'ai commencé à jouer à No Man's Sky, 3 heures plus tard, j'étais toujours dessus, je me suis dit bon, je vais arrêter, parce que le jeu me donnait tout le temps des objectifs, en fait, et donc à chaque fois, tu décroches pas, alors que, genre, par exemple, dans Minecraft, où t'es largué, où t'as aucune information vraiment d'objectif, je trouve qu'on est plus démunis, un peu plus perdu, on sait pas trop quoi faire, donc si t'as une petite trame au début, je trouve que c'est pas mal pour se lancer et maîtriser un peu toutes les compétences et le jeu, quoi.
En tout cas, merci Alex pour cette recommandation. Donc vous savez quoi faire si jamais vous avez du temps à tuer, beaucoup de temps à tuer même. Et maintenant, avant de retrouver Hugo pour l'entretien, il est l'heure de notre premier petit intermède musical. On écoute Pursuing the Dragon, composé par Keishi Okabe pour la bande-son de Voice of Cards, The Isle Dragon Rose. Bonne écoute. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris et il est temps à présent de retrouver notre invité du mois, Hugo Trellis, pour notre entretien. Alors Hugo, merci encore de te joindre à nous ce soir. On va parler ensemble de techno-masculinité, une notion au cœur de tes travaux de recherche passés, mais aussi à venir, car je le rappelle, tu es en train de préparer une thèse sur les rapports sociaux de genre dans l'industrie du jeu vidéo. Et je me permets à ce sujet de mentionner le titre du mémoire que tu as produit l'année dernière lors de ton Master 2 à Paris 8. Je cite « D'une masculinité subordonnée à la techno-masculinité, analyse critique d'une reconfiguration hégémonique de la masculinité par le travail passion dans l'industrie française du jeu vidéo ». Fin de citation. Et juste en passant, je me permets de préciser que tu as rédigé ce mémoire sous la direction de Mehdi Derfoufi, maître de conférences à Paris 8 et auteur notamment du livre « Racisme et jeux vidéo » sorti l'année dernière, ce qui est quand même la très grande classe. Alors, avant qu'on entre dans le détail de ta recherche et qu'on aborde cette notion de techno-masculinité, est-ce que tu pourrais nous présenter la manière dont tu as mené l'enquête sur laquelle repose ton mémoire, d'un point de vue pratique et méthodologique? Et afin de situer ton travail dans le domaine de la recherche en sciences sociales, est-ce que tu pourrais nous dire quelle place occupe aujourd'hui le sujet de l'industrie du jeu vidéo dans le champ de la sociologie et des études de genre?
Bien sûr. Bon, déjà, salut tout le monde et merci de me recevoir pour discuter de ce sujet. Donc, au niveau de mon enquête, alors c'est une enquête qui a duré à peu près 6 mois. 6 mois avec 14 participants. 14 participants qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, on va dire, ou qui sortent d'école ou qui sont dans l'industrie du jeu vidéo depuis une dizaine d'années. Donc on a un échantillon de personnes entre 25 et 35 ans. Donc par rapport à ça, moi je me suis surtout intéressé par rapport à des cadres théoriques autour de la masculinité hégémonique. Alors, je résume un peu ce que c'est la masculinité hégémonique si les auditeurs et auditrices ne connaissent pas trop ce concept. C'est un concept développé notamment par Rhiawyn Connell, qui est une chercheuse en sciences sociales australiennes. Et la masculinité hégémonique, c'est un cadre théorique utilisé pour désigner en fait des configurations de pratiques masculines, c'est-à-dire des ensembles de pratiques sociales qui sont complexes, qui vont en fait renforcer les inégalités de genre. Donc, quand on parle d'ensemble de pratiques, on va dire par exemple des choses très vastes, hein, comme par exemple le fait de manger de la viande, le manspreading, le fait de couper la parole, ce genre de choses. Ou peut-être des pratiques plus anodines qu'on va pas forcément toujours associer à la masculinité, mais qui pourtant pourraient être associées à la masculinité hégémonique. Et je me suis aussi intéressé au travail immatériel, puisque le jeu vidéo, c'est un travail créatif qui tient du travail immatériel, qui là est plus une analyse marxiste du jeu vidéo, mais avec une approche avec des éléments de féminisme matérialiste, quoi. Mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter après. Et pour répondre à la deuxième question sur la question du travail dans l'industrie du jeu vidéo et dans la recherche, on va dire que une des sujets de recherche, en tout cas, qui ont pas mal de poids ces derniers temps, c'est surtout des questions de conditions de travail et de précarité dans l'industrie du jeu vidéo, notamment autour de la syndicalisation et comment en fait tout ça s'est constitué avec des stratégies de résistance aussi au travail ou en dehors du travail. Aussi dans les sciences de l'éducation, par rapport à la place du jeu vidéo dans l'éducation nationale ou dans les écoles. Et en études de genre, on est plutôt sur des questions de représentation, des personnages féminins, des personnages masculins, mais aussi en fait les joueuses, c'est-à-dire quelles sont les conditions de jeu et les questions de sociabilisation pour les joueuses, que ce soit en ligne ou même les streameuses, ou aussi des questions plutôt de diversité d'inclusion, comme notamment Mia Consalvo, qui a participé à des études statistiques et aussi qualitatives sur la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo en Amérique du Nord.
Du coup, venons-y et passons maintenant à cette notion de technomasculinité qui est au cœur de ton travail de recherche. D'où vient-elle, cette notion? Qu'est-ce qu'elle désigne? Et sur quelle forme de socialisation genrée repose-t-elle?
Alors, la technomasculinité, à la base, alors c'est pas un concept que moi j'ai inventé. C'est un concept que je reprends en fait de Robin Johnson. Robin Johnson, qui est un universitaire états-unien, sociologue à l'université de Texas. L'université d'Austin de Texas, je ne sais plus exactement, il faudra que je revérifie. Mais Robin Johnson, en fait, qui parle de technomasculinité dans le cadre d'une ethnographie qu'il a menée dans un studio de jeux vidéo, aux États-Unis également. Mais lui-même emprunte le concept de technomasculinité à Sydney Eve Matrix, qui est une chercheuse également en littérature et sur des questions de technologie. Et globalement, ce que désigne la technomasculinité, c'est la relation entre la masculinité et la technologie, et comment une masculinité, ou en tout cas les masculinités, peuvent se constituer à travers l'usage de la technologie. En fait, en général, on va parler d'une coproduction de la technologie et de la masculinité, c'est-à-dire on va regarder ce que fait la masculinité à la technologie et ce que fait la technologie à la masculinité. Et ce que désigne la technomasculinité, c'est simplement le fait qu'en fait, c'est que déjà, en fait, la technologie à la base, bon, le terme technologie est assez large, hein, on peut aussi considérer qu'ici, on parle surtout des technologies d'information et de communication, et que cette technologie-là, c'est l'objet d'une appropriation masculine en règle générale, qui a été largement documentée à partir des années 80 par de nombreuses féministes. Mais qu'en tout cas, cette appropriation masculine, elle occupe la vie d'un garçon, on va dire, à travers quatre piliers, c'est-à-dire la socialisation, la famille, le loisir et le travail. Et que tout ça, en fait, ça va se constituer dans un réseau d'initiateurs, en tout cas, moi, ce que j'appelle un réseau d'initiateurs, où on va avoir différents acteurs dans ce réseau d'initiateurs qui vont initier une personne à la technologie, à l'usage de l'informatique. Et ce qui va potentiellement faire naître aussi une passion de l'informatique ou du jeu vidéo. Et quand je parle de réseau d'initiateurs, c'est vraiment parce qu'en fait, on n'a pas qu'une seule personne, c'est vraiment plusieurs. C'est-à-dire, ça peut être un parent, un frère, un ami, un groupe d'amis, ou une personne extérieure de la famille, un ami de la famille, une personne à l'école qui fait du mentoring en informatique bénévolement. Et donc tout ça va constituer un réseau qui va soutenir des connaissances de l'informatique et vont permettre en fait de constituer, on va dire, ce qu'on peut considérer comme une sorte de capital technique, c'est-à-dire de capital de compétences techniques qui vont être utiles en fait finalement à partir du moment où on va commencer à chercher un travail après le lycée ou après les études supérieures.
Passons maintenant au contexte de l'industrie du jeu vidéo, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse en particulier ici. Dans ce contexte de l'industrie, donc, comment cette technomasculinité va s'exprimer chez les travailleurs et éventuellement chez les travailleuses, très éventuellement, et comment la technomasculinité peut-elle affecter la production d'un jeu vidéo, l'organisation d'un studio ou encore ses pratiques de travail?
Alors, comme tu l'as dit un peu précédemment, il y a la question de l'identité geek et de la culture geek qui est pour moi en fait assez essentielle. Parce que bon, je parlais de technomasculinité avant, de masculinité hégémonique. En fait, en général, ce qu'on a tendance à dire par rapport à la masculinité hégémonique, c'est qu'on a tendance en fait à la confondre avec une identité masculine. Alors, la masculinité hégémonique, de la manière dont ça a été conceptualisé, c'est pas une identité. C'est des pratiques, c'est un ensemble de pratiques. On peut pas dire d'un macho par exemple qu'il a une masculinité hégémonique. C'est pas quelque chose qui serait cohérent par rapport au cadre théorique de la masculinité hégémonique. Pour la technomasculinité, c'est pareil. On peut pas dire de quelqu'un qui se comporte comme un homme qui a une technomasculinité. Et donc en fait, c'est surtout grâce à l'identité geek, à la culture geek, qu'on va pouvoir en fait venir fixer des choses qui sont, en fait, l'identité geek va être un point de fixation de la technomasculinité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que globalement, en fait, ça va amener des références, ça va amener un imaginaire collectif aussi, et aussi un imaginaire individuel. Mais surtout, en fait, ça va être un fil rouge, en fait, l'identité geek entre guillemets. Et moi, ce qui m'a surtout intéressé par rapport à l'identité geek, c'est que surtout dans l'industrie du jeu vidéo, c'est une sorte de prérequis, on va dire, pour y travailler. Alors, si c'est positif ou négatif, ça, globalement, je ne me prononce pas là-dessus, ce n'est pas ce qui m'intéresse fondamentalement. Mais l'idée, c'est justement de dire que, étant donné que la technomasculinité, qui serait en fait une sorte de masculinité hégémonique, elle change en fait à travers le temps. Parce que la masculinité hégémonique n'est pas fixe, elle se reconfigure à travers les décennies ou des années, et ces reconfigurations-là sont difficiles à percevoir. Et pour la technomasculinité, en tout cas, sa manière de se reconfigurer, c'est notamment à travers l'identité geek, la culture geek. Je m'explique, parce que là, ça peut être un peu abstrait. Une des choses que en tout cas sur lesquelles moi je m'intéresse, c'est le fait que quand on est geek, encore une fois, geek, ça peut être un mot très large, mais en tout cas, ici, je désigne par geek le fait d'avoir un intérêt pour la science-fiction, pour les jeux vidéo, pour l'informatique, ou en tout cas tout ce qui est relatif en fait, aux univers virtuels et numériques, et d'y passer un certain temps. Quand on est geek, que ce soit au collège ou au lycée, ça va être perçu comme quelque chose d'assez négatif. En tout cas généralement négatif, on peut même en vivre un peu de harcèlement scolaire, une certaine violence par rapport à ça, mais dès lors en fait qu'on quitte ce cadre-là, ce contexte-là, on va avoir une sorte de renversement, puisque toutes les compétences qu'on va accumuler en ayant cette identité geek va constituer, comme je l'ai dit avant, une sorte de capital technique, un capital de compétences techniques qui va être en fait finalement inestimable sur le marché du travail et très spécifiquement sur le marché du travail de l'industrie du jeu vidéo. Et donc, ça, c'est notamment un point, on va dire, de mon analyse, c'est de voir en fait comment en fait ce renversement s'opère, que ce soit, c'est-à-dire quand on est collège-lycée, puis quand on arrive dans l'industrie du jeu vidéo, que d'une sorte de masculinité subordonnée, entre guillemets, on va passer en fait à quelque chose de bien plus hégémonique, bien plus j'ai pas envie de dire dominant parce que c'est pas ça, mais en tout cas bien plus hégémonique. En fait, on va avoir plus de privilèges grâce à une sorte de capital qu'on aura alimenté pendant de nombreuses années dans l'enfance, l'adolescence et ensuite dans les études supérieures.
Et du coup, au sein d'un studio, comment cette Quelle incidence, quels signes on peut en voir au sein d'un studio, dans son organisation ou ses pratiques de travail?
Ça, c'est aussi une autre partie de la problématique en fait de la masculinité, qui est qu'en fait toute la problématique de la masculinité hégémonique, c'est d'assurer une forme de pouvoir continuer, une forme d'impunité, de puissance en fait, que ce soit sur d'autres hommes et sur les minorités de genre. Et une des problématiques du travail du jeu vidéo, c'est que c'est pas quelque chose de physique. On va pas être dans quelque chose comme, en fait, on va dire le travail d'usine par exemple, où même s'il est difficile et qu'on peut en avoir des séquelles, on peut avoir une forme de on peut y voir une forme de satisfaction un peu virile d'exercer un travail physique auprès des machines, où on met les mains dans les machines, etc. Il y a un côté danger, le côté dangereux de travailler avec des machines qui peuvent être dangereuses. Et que par rapport aux jeux vidéo, on n'a pas ce côté-là en fait. On est un peu assis devant son ordinateur, on ne fait pas grand-chose à part des lignes de code et ou le 3D, ou faire des documents de design, ou faire des meetings interminables de 2 heures pour décider si l'interface elle doit être comme ça ou autrement. Et donc une manière en fait c'est le terme que j'utilise, de remasculiniser le travail du jeu vidéo. Et quand je parle de remasculiniser, c'est simplement dans le cadre en fait d'une société qui pense les genres de manière binaire, hein. C'est une manière donc de remasculiniser le travail, c'est le crunch en fait. Et moi, j'ai analysé le crunch notamment en fait comme non pas une sorte de dysfonctionnement du management, un dysfonctionnement en fait de la gestion de production, mais bien en fait comme un outil de production fait pour permettre de masculiniser le travail du jeu vidéo.
Est-ce qu'on peut considérer que ça peut être les deux quand même à la fois, c'est-à-dire à la fois un dysfonctionnement managérial et en même temps une sorte d'outil dont peuvent s'emparer les hommes au sein d'un studio pour du coup masculiniser leurs pratiques professionnelles.
Alors, on pourrait considérer que c'est un dysfonctionnement. Moi, dans le cadre de mon analyse, je considère que ça fait une partie intégrante de la gestion de production. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, je dis pas que c'est quelque chose de bien ou que c'est quelque chose de positif, c'est juste que c'est là. Et effectivement, dans le discours médiatique, on a tendance à montrer le crunch comme un dysfonctionnement, quelque chose qui n'est pas censé exister. Or, le fait est que le crunch existe et qu'il continue à être appliqué dans certaines conditions ou dans certains studios. Donc pour moi, je le vois vraiment comme un outil de production.
Comment se sont exprimés tes enquêtés à ce sujet-là, du coup, par rapport au crunch?
Mais c'est justement un positionnement qui était assez intéressant, puisque d'une part, on avait... Alors, évidemment, il y avait des gens qui avaient une position très critique par rapport au crunch, qui disaient que, globalement, ils allaient jamais faire du crunch, mais qui en avaient fait au moins une fois dans leur vie, dans leur carrière en fait de développeurs de jeux vidéo, que ce soit dans leurs études ou que ce soit au cours de leur stage ou ensuite de leur CDD ou de leur CDI. Et à chaque fois, il y avait quand même ce côté de « si c'était à refaire, je le referais aussi ». Et j'avais certains cas où, en tout cas, on avait une sorte de nostalgie du crunch, qui avait à la fois en fait le fait de reconnaître que le crunch était quelque chose de difficile, que oui, faire 12 heures, plus de 12 heures, même parfois 16 heures de travail en une journée, c'était quelque chose de difficile et d'extrêmement intense, mais que les amitiés qui avaient émergé de ce moment intense de crunch étaient finalement inestimables. Et donc, le crunch était important dans la fraternité en fait, qui se crée dans la production de jeux vidéo, puisque c'était ces moments en dehors des heures de travail qui permettaient de renforcer les amitiés masculines. Puisque après 18h, 19h, celles et ceux qui avaient une vie de famille ou qui avaient qui ne pouvaient pas aller au-delà de 18h pour d'autres raisons, peut-être parce qu'ils devaient prendre un train, parce qu'ils vivent loin du studio, etc. En tout cas, les gens qui restaient, c'était majoritairement des mecs entre eux. Et le studio devenait un terrain de jeu. Donc le crunch permettait une sorte de hors-champ on va dire, constitutif de la technomasculinité. C'est un terme, là, c'est un peu une expression un peu pompeuse, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'entre 9h et 18h, globalement, c'est quelque chose de cadré dans le travail, quoi. Et au-delà de 18h, on commence en fait à... on quitte le domaine du travail. Et ça va se manifester par le fait d'aller boire une bière au bar d'en face, entre 2 heures de travail, donc aller au bar, puis revenir. Et puis quand on est revenu au boulot, étant donné qu'on est un peu bourré, on commence à faire des petits jeux. Donc s'amuser dans l'open space, peut-être faire des batailles de nerf, etc. Jouer en ligne ou en LAN avec les autres collègues. Donc tout ça va constituer une sorte de fraternité et donc une sorte un peu de nostalgie ensuite par la suite. Donc ça, on a le premier rapport au crunch. Et après, on a aussi un deuxième rapport au crunch qui est effectivement le côté de quelqu'un qui a vécu le crunch et qui dit « on va plus en refaire ». Mais du coup va opérer une sorte de pouvoir sur les autres personnes en disant « vous n'avez pas le droit de cruncher ». Mais que cette personne-là, elle va continuer à cruncher. C'est-à-dire qu'elle va faire des heures supplémentaires en disant « vous rentrez, moi je vais faire le crunch ». Donc une manière de se distinguer aussi, en fait. Et puis enfin, troisième type de crunch, c'est là, on va dire, plutôt dans un cadre on va dire de syndicat. Mais si on regarde un peu, par exemple, aussi la création... la manière dont le syndicat du jeu vidéo, le STJV, s'est créé. Quand on regarde un peu les histoires un peu comme ça, informelles qui circulent, on sait que les réunions, les statuts du syndicat ont été... tout ça, en fait, a été fait en dehors du travail, donc après le travail, après 18h, dans des réunions qui pouvaient durer jusqu'au bout de la nuit, en général, qui pouvaient durer très longtemps, en tout cas. Et que là, le crunch se déplaçait, n'était plus dans le sud du jeu vidéo, mais plutôt... dans la création du syndicat, et que finalement, c'était une forme de crunch aussi. Donc, on voit que finalement, qu'on peut retrouver le crunch partout comme une manière, en fait, finalement, de créer une forme de solidarité entre hommes.
Bien sûr. Oui, et puis tout ce que le crunch engage n'est pas forcément présent de manière consciente chez les travailleurs, éventuellement travailleuses, qui le pratiquent. Peut-être que certains travailleurs, c'est juste qu'ils le subissent pas mal. Peut-être qu'ils pratiquent le crunch sans forcément se dire qu'ils vont créer de manière volontaire un réseau masculin au sein de leur entreprise, etc. C'est peut-être des choses qui sont présentes entre les lignes sans même qu'ils y réfléchissent. C'est une question. Enfin, savant, c'est une question que je te pose. J'imagine, mais c'est peut-être complètement faux.
Non, bien sûr. J'entends ce que tu dis. Après, moi, j'ai tendance à pas trop aller sur ces notions de conscient ou d'inconscient, ou s'il y a une intention derrière, puisque en fait, finalement, le résultat est le même. Puisque en fait, une fois que la fraternité est constituée, cette solidarité masculine est là, ça va aussi en fait amener d'autres problèmes. Des problèmes donc du coup de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, même aussi d'agression, de choses qui peuvent aller très loin, et qui finalement permet de renforcer ce boys club là. C'est-à-dire que on peut ne pas en avoir conscience, mais finalement le résultat reste le même.
Bien sûr. Le temps passe très très vite, donc je pense que très rapidement, si jamais en quelques mots tu peux nous en parler un petit peu, mais après il va falloir passer à la suite. Si on adopte une vision un petit peu plus intersectionnelle, disons, comment la technomasculinité peut s'articuler au sein du studio et en dehors, autour du studio, en périphérie du studio et de son activité, comment cette technomasculinité peut s'articuler avec d'autres systèmes de domination que celui des rapports de genre. Donc, je pense notamment au capitalisme, au racisme, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des ponts, est-ce qu'il y a un réseau qui se crée avec ces autres systèmes?
Oui, c'est sûr qu'avec une approche intersectionnelle, on peut vraiment relier tout ça, et que de toute façon, on pourrait dire que la technomasculinité, c'est le produit du capitalisme, si on peut dire, mais qu'elle est aussi traversée par une suprématie blanche, en fait. Alors quand je parle de fait que la technomasculinité serait traversée par la suprématie blanche, c'est notamment le fait de dire que la technologie, les nouvelles technologies, les technologies d'information et de communication peuvent être racistes, que ce soit à travers des algorithmes dits racistes, ou en tout cas dont dont on fait un usage raciste en tout cas, et que on pourrait également aller un peu plus loin en se demandant dans quelle mesure en fait on a des systèmes de pouvoir plus globaux que dans le studio de jeux vidéo. Et pour ça en fait, on a un auteur qui s'appelle Ergin Bulut, qui a fait une ethnographie aussi dans un studio de jeux vidéo et qui mobilise le concept de ludopolitique. Et le ludopolitique, en fait, la ludopolitique, il utilise ce concept pour évoquer les régimes d'inégalité qu'on retrouve dans l'industrie de jeux vidéo, tant en fait d'un point de vue local que global. C'est-à-dire que d'un point de vue local, dans ce studio de jeux vidéo, on va se poser la question de dans quelle mesure en fait le fait de pouvoir travailler, travailler dans de notre passion, dans quelle mesure est-ce que ça c'est possible grâce en fait à l'exploitation d'autres personnes d'un point de vue local mais aussi global en fait.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On aurait pu encore continuer longtemps, mais il faut qu'on passe à la suite et j'espère que, je ne doute pas d'ailleurs, que mes collègues auront plein d'autres questions pour toi pour qu'on puisse poursuivre cet échange. Mais avant de passer à cette seconde partie de l'entretien, une autre petite pause musicale. On écoute cette fois-ci Some Special de Bratmobile, qui fait partie de l'OST de Gone Home. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Hugo pour la suite de l'entretien. Mais avant de laisser la parole aux autres membres de l'équipe, petite question concernant cette musique. Hugo, est-ce que tu l'as découverte avec Gone Home ou est-ce que tu appréciais déjà Bratmobile avant de jouer au jeu ?
J'ai découvert Bratmobile grâce à Gone Home et après, même si j'écoutais énormément de punk rock, ouais, voilà, avant Gone Home, et c'est notamment aussi pour ça que j'ai aimé le jeu. Alors, enfin. Globalement, ce choix de musique, c'est aussi parce que Gone Home, ça a été un de mes chocs quand il est sorti en 2013. Mmh. Et puis, en fait, aussi, pour moi, c'est un peu symbolique, hein, puisque récemment, en fait, je crois que c'est cet été, un article qui est sorti sur Polygon, une enquête sur Steve Gaynor, qui est donc le fondateur de Fulbright Company, mmh. qui a développé Gone Home, qui enquête notamment sur la gestion, on va dire, très problématique de Steve Gaynor avec son équipe, qui est décrit comme un gérant, on va dire, un gestionnaire tyrannique, qui humilie les gens et aussi sexiste, et qui du coup donne forcément une image assez différente de Gone Home, qui a été un peu érigé comme un symbole un symbole un peu indépendant, mais aussi queer du jeu vidéo, puisque l'histoire de Gone Home, mm-hmm. c'est aussi une histoire de coming out, une histoire d'amour queer, mais qui a été écrite par un mec cis blanc hétérosexuel. Et pour moi, en fait, c'est aussi un peu l'occasion de... j'avais un peu la sensation que, pour moi, en tout cas, l'article de Steve Gaynor, c'est un peu aussi la manifestation de quelque chose dans l'industrie du jeu vidéo et dans l'espace médiatique du jeu vidéo qui commence à être un peu récurrent, qui est le fait que c'est bien hein, de s'intéresser à des problématiques individuelles que rencontrent les studios, mais ça reste quelque chose de global et que le fait de s'intéresser à des individus et donc à des cas individuels nous éloigne aussi en fait de la lutte plus globale, c'est-à-dire de rendre l'industrie du jeu vidéo accessible à d'autres personnes que des mecs cis blancs hétérosexuels, et que les systèmes de pouvoir sont pas que individuels, mais sont aussi collectifs, quoi. Voilà.
D'ailleurs, je crois qu'il y avait le même genre de problème avec le studio et le dirigeant du studio qui avait réalisé Night in the Woods. Il y avait aussi des... Bon, après, il y a une horrible histoire de suicide, si jamais je ne dis pas de bêtises, après. Mais oui, il y avait aussi, pareil, Night in the Woods, qui a été très... encensé et apprécié, justement, pour cette touche très indé, très respectueuse, ouverte sur plein de sujets, enfin... Et qui, en fait, voilà, il y a une des révélations de management atroce aussi dans ce studio-là. Donc, comme quoi, en effet, c'est global et non pas individuel. Merci de le rappeler. Est-ce que quelqu'un, du coup, aurait à présent des questions pour Hugo? Oui, Beyond.
Merci. Alors moi, déjà, je vais te remercier pour l'interview qui était vraiment passionnante, notamment sur tout l'aspect autour du crunch. C'est une thématique sur laquelle je me suis un peu renseigné, et j'avoue que cet aspect-là, j'y avais pensé, mais je ne l'avais pas trop poussé. Et là, les échanges étaient vraiment passionnants, donc merci à vous deux. Et moi, la question que je vais poser, c'est plus une question, on va dire, d'ordre technique. En fait, c'est par rapport... Donc si j'ai bien compris, donc, tu fais un travail de thèse actuellement. Et moi, la question que j'avais, c'est comment tu organises ton travail, et surtout comment tu organises tes recherches. Est-ce que c'est plus quelque chose d'aspect relecture d'articles ou relecture de livres? Est-ce que c'est plus suivi de l'actualité? Est-ce que c'est des interviews des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo? Enfin voilà, rapidement, parce que j'imagine que c'est compliqué de résumer plusieurs années de travail, mais comment ça s'organise tout ça?
Alors globalement, moi, la thèse va commencer l'année prochaine. Donc là, on n'est pas encore dans le vif du sujet, mais globalement, la thèse va probablement être sur le même sujet pour approfondir un peu ces notions-là. Globalement, en fait, moi, j'ai passé donc pendant 6 mois, ça a été rythmé en fait par des rencontres avec donc les 14 participants à l'enquête. Donc ça a été des entretiens pendant lesquels en fait on a évoqué des questions autour du travail, de la passion du jeu vidéo, le rapport aussi à la masculinité. Et tout ça, donc c'était des choses assez des entretiens parfois un peu fleuves et qui se répétaient, on va dire. En général, ça allait à 2-3 entretiens qui duraient en moyenne 90 minutes, où on parlait vraiment de tout ça. Et après, en fait, moi, par rapport à mon travail je suis arrivé. Je suis arrivé à Ubisoft en juillet, donc je finissais un peu mon travail, donc ça n'a pas eu vraiment d'influence sur mon travail. Et j'ai aussi essayé de pas trop mélanger les deux, parce que c'était compliqué, notamment pour des questions de confidentialité, tout ça. Enfin, ça aurait été trop compliqué de mettre ça en place avec mon employeur. Et oui, après, il y a effectivement un très long travail de veille, de lecture, de toujours... regarder un peu dans différents cadres théoriques, etc., quels sont les outils qu'on peut appliquer pour analyser ces questions-là. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, par contre...
Si, tout à fait, c'est pile ce que je demandais. Et merci du coup pour la réponse.
Mais de rien.
Et bon courage pour les années qui arrivent, ça promet d'être passionnant.
Merci.
Bon, moi je vais arriver avec mes gros sabots et plein de questions. Déjà, merci beaucoup, c'était super super intéressant. La première question que j'avais, c'est... Ouais, j'ai fait des études d'informatique et je retrouve énormément de ce que t'as dit sur le crunch, sur les liens qui se forment en dehors de mes souvenirs d'études d'informatique. Vu que c'est un truc qui s'instaure très vite tout seul et qui est dans la culture, le fait de, après les cours, rester dans les locaux, se prendre une pizza et commencer à taffer sur les projets, etc., ça s'est vraiment établi comme une presque comme une continuation de ce qui se passe dans le système scolaire avec les devoirs. Et c'est vrai que même s'il n'y a pas cette... on parlait de conscience, d'inconscience, autant il n'y a pas forcément cette conscience que c'est un entre-soi masculin qui se crée, etc. Autant c'est... évidemment qu'il y a un plaisir très conscient de on va resserrer des liens, etc. Et oui, il y a aussi de plus en plus aussi cette conscience que même une fois que t'es plus un mec, genre quand tu commences à participer à ces trucs-là, c'est que t'es un peu obligé, enfin voilà, à partir du moment où on a dépassé 18 heures, comme tu disais, on a un peu l'impression de devoir s'adapter, enfin, il y a vraiment cette impression un peu floue de se dire, ah, enfin, à partir de maintenant, c'est un peu le boys club, et il faut que je m'arrange un petit peu avec ça, et que je me, à partir de maintenant, il va falloir que je m'adapte. Et en même temps, il y a aussi un côté très positif à ces expériences-là, et c'est un peu je vais parler du jugement qualitatif, donc forcément c'est peut-être pas un truc sur lequel tu peux répondre, mais ouais, c'est ça, je me demandais un peu si ce problème, c'était d'un côté cette informalité et le fait d'aller au-delà des horaires de travail, etc., et où au contraire la réponse ce serait des trucs très sérieux, très carrés, etc. On voit aussi beaucoup de critiques qui sont en vrai très justifiées, de l'alcool en dehors des heures de travail, des pots sur le lieu de travail, etc., qui sont des gros catalyseurs d'entre-soi masculin, etc. Ou au contraire, le fait que ces espaces de base soient dominés par les hommes, et ça, c'est ça qui construit aussi un petit peu ce fait que la moindre informalité, ça va commencer à être le boys club qui se crée, et on le sent. Est-ce que t'as des pistes sur ça, ou je sais pas si c'est extrêmement pertinent comme question, mais voilà, j'aurais aimé avoir ton avis.
Merci pour ton... Pour ton retour, enfin, le fait que, enfin, en tout cas, ce que tu dis rejoint un peu toi ton expérience, tout ça, enfin, voilà, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et donc, si je comprends bien ta question, donc c'est le fait de savoir comment est-ce qu'on peut essayer de contrer un boys club de se constituer, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok. C'est assez compliqué parce que effectivement, il faut réussir à maintenir une sorte d'équilibre avec le fait de pas non plus avoir une sorte de quelque chose de trop autoritaire en disant genre non, vous pouvez pas aller boire un verre entre collègues, non, vous faites pas d'heures supplémentaires ou non. Enfin, bon, les heures supplémentaires, ce serait pas très grave si on nous les interdisait, mais globalement, enfin, je pense que en fait, on pourrait mettre en place des choses comme ça, effectivement, de dire oui, dans les événements professionnels, et on n'a pas d'alcool, etc. Mais en fait, c'est pas l'alcool qui fait qu'on a un boys club qui se constitue, ou qu'il y a des gars qui vont se permettre certaines choses avec d'autres personnes, des minorités de genre, parce qu'en fait, ils sont entre mecs, et donc ils pensent qu'il y a une forme d'impunité qui commence à se manifester, en fait. Enfin, et est-ce que interdire les événements pro, ce serait aussi la solution, enfin, c'est quelque chose d'assez complexe, et en même temps, je pense que une des solutions qui peut être intéressante, c'est la question de la non-mixité. Que en fait, ce soit systématique dans des événements pro ou même dans les entreprises, je sais pas, d'organiser des choses qui soient en non-mixité, que cette non-mixité-là elle soit acceptée. Et bon, pour ça, il faudrait qu'elle soit déjà acceptée par les personnes qui veulent pas forcément d'une non-mixité, alors qu'ils en jouissent. Très largement en général. Je dois t'avouer que j'ai pas vraiment de réponse à la question, qui est que en fait, dès lors que tu commences à toucher à ces choses-là, t'as 36 000 problèmes qui viennent derrière. Et aussi, en fait, finalement, le risque de généralisation ou des choses comme ça. Enfin, voilà, moi, quand je vois dans des événements. Professionnels où les gens disent bah on va interdire l'alcool parce que voilà, effectivement pourquoi pas, mais en fait c'est se tromper de cible, en fait, enfin je veux dire, à partir du moment où c'est pas parce qu'on n'a pas d'alcool dans un événement que du coup on va pas avoir de comportement problématique, ça va se déplacer ailleurs, en fait. J'ai parfois la crainte que c'est parfois très très ancré dans l'industrie du jeu vidéo, et que c'est compliqué un peu d'amener d'autres solutions, mais au moins ça a le mérite, voilà, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer un peu de et d'amener des conversations qui sont pas forcément aussi très confortables, finalement. Ça reste mon positionnement. Je sais que c'est pas une réponse très très élaborée et très satisfaisante, mais voilà, enfin, en tout cas j'en arrive un peu à ce genre de conclusion, quoi.
Oui, mais merci beaucoup, et c'est déjà très intéressant d'avoir ce enfin oui, voilà, ces questions auxquelles on a un peu tous du mal à répondre, ouais. J'avais du coup une autre question qui paraît, enfin oui voilà, qui est peut-être, enfin c'est peut-être un peu tôt pour la poser, mais justement je me posais un peu des questions sur les comment dire ça, les limites de la technomasculinité, dans le sens typiquement, j'ai des potes dans l'animation, et je retrouve énormément de trucs qui se font dans le jeu vidéo, que ce soit, enfin voilà, le crunch qui est inculqué dès l'école, qui, même s'il n'y a pas le terme de crunch, il me semble trop là-bas, mais voilà, ces heures sup qui sont inculquées dès l'école, qui se retrouvent ensuite, les conditions de travail qui sont encore pires que l'industrie du jeu vidéo, parce qu'il me semble qu'ils sont pour la plupart intermittents du spectacle, enfin il y a des... ça marche par des contrats qu'on n'ose même pas utiliser dans le jeu vidéo, tellement c'est... tellement c'est exagéré, et qui en plus, ces contrats ne sont pas respectés, et il y a des heures sup qui sont, enfin, parfois il y a des mois de travail qui sont juste pas payés. Et c'est un peu cette question de, est-ce que voilà, t'as déjà vu des, comment dire ça, étudier, est-ce que aussi, en termes de genre, il y a des cas un peu adjacents à l'industrie du jeu vidéo, mais où il y aurait moins cette notion de technomasculinité, qui sont déjà étudiés pour voir un peu ce qui est spécifique à nous, et ce qui rejoindrait justement d'autres milieux, ou est-ce que c'est encore, c'est une question très large, donc j'imagine que c'est peut-être un
non,
peu tôt.
Non, c'est pas tôt du tout, et c'est hyper pertinent, hein, ce que tu dis. Et alors moi, je me suis concentré aux jeux vidéo, bah, notamment parce que c'était un terrain que je connaissais. Enfin, moi, j'ai fait une école de jeux vidéo, et après, derrière, j'ai travaillé aussi dans l'industrie du jeu vidéo, donc je connais très bien ce milieu. Ceci étant dit, effectivement, qu'on peut appliquer ça à d'autres domaines où en fait, on a la question, l'usage en fait d'outils technologiques, des technologies d'information et communication. Et je pense aussi, en fait, un des points communs, alors j'ai pas eu le temps de le développer pendant l'interview avec Jean, mais globalement, un des points communs aussi, c'est le fait que le travail créatif et le travail immatériel, en fait, c'est-à-dire la précarité qui est créée par ce genre d'emploi amène aussi, selon moi, en fait, des problématiques dans les rapports sociaux de genre, c'est-à-dire vraiment qui peuvent amener des rapports asymétriques de pouvoir et donc des questions de harcèlement, de sexisme, de misogynie très fort, parce que selon moi, en fait, il y a le fait, en fait, dans cette précarité, il y a quelque chose d'inconfortable et de vulnérable qui fait qu'en fait, ça va demander, que ça ouvre la porte, en fait, à de la violence, quoi. En fait, et donc de remasculiniser, c'est ce que je disais, en fait, de masculiniser, de remasculiniser quelque chose. Et encore une fois, enfin, c'est pas pour essentialiser, c'est pas pour essentialiser en fait les rapports de genre, mais simplement que on peut se demander dans quelle mesure la précarité et donc la vulnérabilité produite par le travail créatif amène aussi en fait des comportements. Comme le fait, voilà, de trouver des moyens pour avoir une solidarité masculine au travail, et donc de trouver une sécurité, une solidité qui n'existe pas dans l'emploi, en fait. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus, enfin que je développe en tout cas un peu dans mon mémoire par rapport aux jeux vidéo, mais qu'en tout cas qu'on pourrait appliquer à d'autres métiers créatifs.
Merci beaucoup encore une fois pour cet entretien, Hugo, et d'avoir répondu aussi aux questions des autres membres de l'équipe. Maintenant, on va passer à la chronique de H. H, c'est à toi.
Et du coup, on va continuer un peu sur les questions de jeux vidéo, de féminisme. Et aujourd'hui, je vais vous parler de jeux qui parlent de l'exploitation domestique. Alors, la répartition des tâches ménagères, c'est depuis longtemps un thème central du féminisme, en particulier depuis les années 70, quand a été théorisée l'exploitation domestique par les mouvements féministes, marxistes ou matérialistes. C'est un sujet qui continue d'être central, même si on en parle aujourd'hui plus comme charge mentale. Et cette centralité en fait un très bon point de départ pour explorer la théorie féministe plus généralement. Ça tombe bien, ces deux dernières années, deux jeux ont décidé d'aborder cette question précisément. Behind Every Great One, du studio espagnol de la Deconstructime, qui ont également fait Red Strings Club, et A Comfortable Burden, du studio français Otherwise. De loin, ils sont très similaires. Ce sont deux jeux très courts, où le gameplay principal sera de vous déplacer dans l'appartement et d'effectuer les tâches ménagères. Mais la ressemblance s'arrête là. et il présente en vérité une vision assez opposée de l'exploitation domestique et de la lutte féministe de façon plus générale. Dans A Comfortable Burden, vous incarnez tour à tour deux partenaires d'une relation hétéro. Le mari effectue les quelques tâches d'une petite liste, puis va se reposer, tandis que la femme effectue tout le reste. C'est plus long et vous n'avez souvent pas le temps de tout finir avant la fin du timer. Mais vous finissez par en discuter, le mari réagit, et tout revient dans l'ordre. Dans Behind Every Great One, vous incarnez la femme d'un grand artiste. Vous effectuez toutes les tâches ménagères en vous accordant une pause clope de temps à autre pour ne pas fondre en larmes, pendant qu'il s'enferme toute la journée dans son atelier pour travailler sur sa grande œuvre. Le même jour se répète encore et encore, et la fin ne laisse présager aucun changement. Alors pourquoi ce pessimisme ? Parce que tout au long du jeu, Behind Every Great One attire l'attention sur tout ce qui enferme cette femme dans cette relation. Ce qui permet à cet artiste d'exploiter cette femme et d'exercer une emprise psychologique ultra-violente sur elle, faites attention en lançant le jeu, c'est vraiment terrifiant, c'est que la société accorde bien plus de valeur à son temps, à son travail, à lui. En bref, Behind Every Great One met l'accent sur ce qu'il faut changer dans la société, tandis que Comfortable Burden dit juste qu'il faut éduquer. Behind Every Great One essaye d'aller chercher ce qu'il y a de politique dans le personnel, comme le dit la vieille formule, et nous aide à comprendre ce qui construit ces situations et à les changer, tandis que Comfortable Burden participe forcément à les cacher. Ainsi, le jeu français d'Author Wise porte les traces de ce que Bell Hooks, théoricienne féministe majeure du black féminisme, dénonçait comme un féminisme bourgeois. Un féminisme qui ne cherche pas à examiner les mécaniques de l'oppression sexiste, et qui n'a donc pas pour but de créer un changement social, politique, qu'on ne pourrait atteindre qu'avec un mouvement révolutionnaire, mais un féminisme qui se limite strictement à penser à des mentalités, et dont les seuls objectifs sont d'éduquer et de déconstruire. Bien sûr, Behind Every Great One, c'est juste la situation d'une femme au foyer bourgeoise, et il est loin d'être suffisant à lui tout seul. Mais en attirant l'attention sur les causes externes de cette situation, il pose les bases pour les comprendre et faire le lien entre cette situation et toutes les autres qui constituent ensemble la condition féminine aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire le lien avec les origines des deux jeux. En France, d'où vient A Comfortable Burden, l'héritage matérialiste a été perdu après des décennies d'institutionnalisation du féminisme, et le paysage est grandement modelé par les maisons d'édition qui ont très à cœur de garder un féminisme acceptable, et n'acceptent souvent que de mettre en avant des hétéroféministes. Tandis que dans le mouvement féministe en Espagne, il y a beaucoup de circulation avec les mouvements d'Amérique du Sud via la langue partagée, il y a le gros mouvement de grève féministe qui est parti d'Amérique du Sud et qui s'est répandu jusqu'en Espagne, et il y a beaucoup plus une conscience de l'importance du travail dans l'oppression sexiste. Bref, cette distinction entre vouloir apporter un changement social et politique ou non, féminisme révolutionnaire ou non, elle est centrale. Elle va jusqu'à influencer grandement, par exemple, toute la critique antisexiste des représentations qu'on trouve en ligne. C'est souvent des critiques qui semblent un peu désarticulées, un peu subjectives, sans colonne vertébrale, parce que notre seule praxis, c'est de collecter plein d'opinions, de voir ce qui était personnellement empowering pour chacun chacune, de mettre ses expériences côte à côte et pas grand-chose de plus. Au contraire, faut que notre critique et notre production, elles cherchent à planter les graines d'une conscience des mécanismes politiques qui créent nos oppressions. C'est sur ces points-là qu'on créera des solidarités et des véritables changements.
Merci beaucoup, Ash, pour cette chronique et pour avoir parlé du coup de ces deux jeux dont personnellement j'avais jamais entendu parler. Et Behind Every Great One m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment envie d'aller y jeter un œil du coup. Est-ce que quelqu'un aurait envie de réagir à la chronique de Ash?
Oui, bah forcément, moi ça me. Enfin, je connaissais les jeux dont tu parlais, Ash, et merci hein, pour la chronique qui est hyper intéressante et qui montre, je trouve, à la fois les possibilités de représenter en fait aussi ces problématiques-là en jeu, mais aussi les limites de les représenter. Moi, j'ai toujours un peu fait preuve de réticence par rapport à ça. Enfin, je comprends à la fois pourquoi est-ce qu'on va dans ces directions-là, mais je me demande en fait dans quelle mesure ça parvient vraiment à éduquer sur ces problématiques, ou même si c'est l'objectif. Enfin, je ne sais pas si toi, t'as pu lire des choses à ce sujet-là. Est-ce que tu as pu voir des choses, enfin, quelles étaient en fait les intentions des devs quand ils l'ont fait? Est-ce qu'il y a eu des résultats derrière ou pas du tout?
Alors j'avoue que j'ai pas, j'ai entendu pas mal parler de, enfin j'ai entendu, je, comment dire ça. J'ai plus vu les devs de Comfortable Burden parler parce que, enfin voilà, parce qu'elles sont françaises et que du coup leur, enfin comment dire ça. Oui, tout le message qu'il y avait, enfin elles explicitaient pas mal tout le message autour du jeu. Il y a eu, elles ont participé plusieurs fois à des tables rondes ou à des walkthroughs. Des walkthroughs du jeu par d'autres personnes, moins pour Behind Every Great One, mais justement Behind Every Great One, je me rappelle qu'à l'époque c'était un jeu qui avait, que j'avais très souvent vu jouer dans des petits événements, etc., montré par-ci par-là. Je sais pas s'il était passé à l'Indiecade Europe, mais en tout cas, ouais, je sais que je l'avais revu plusieurs fois, et qu'il y avait eu justement... alors je sais pas si ça a été, si ça a été le vecteur d'une... enfin voilà, d'une grande compréhension familiste ou quoi, mais en tout cas, c'est, je l'ai beaucoup plus vu marquer des gens de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup, et oui, surtout que la Deconstruct Team a fait tout un... a publié toute une anthologie cette année, et dont je vais essayer de retrouver le nom très rapidement. Et ouais, il y a plusieurs des jeux qui sont très très cool, et j'ai pas encore regardé, il me semble qu'il y a une petite interview d'eux dedans, ou un petit documentaire, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder avant ça, j'aurais peut-être dû avant la chronique.
Beyond suggère Essays on Empathy.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est ça.
Liz, tu voulais réagir ?
Oui, merci. Merci pour ta chronique, parce que j'avais beaucoup entendu parler de Comfortable Burden, mais pas du tout de Behind Every Great One. Et oui, ce que tu disais, ça me faisait penser aussi à ça rejoint un peu le sujet de beaucoup de podcasts qui se concentrent surtout sur des cas individuels qui cherchent pas de réponse, j'ai l'impression, sur les structures, sur les institutions, dans la lutte collective. Il y a aussi un peu ces questions d'empowerment qui sont vraiment des logiques très individualistes, j'ai l'impression. Et du coup, je suis contente d'avoir entendu parler de Beyond Every Great One. Je pense que je vais l'essayer bientôt.
Hugo, tu voulais parler de nouveau ?
Oui, je voulais juste... ça m'interpelle du coup le choix du sujet de la chronique, parce qu'en fait aussi, par rapport à mon sujet de recherche, en tout cas les sujets de recherche, il y a aussi vraiment en fait, la question finalement de se demander en fait, aussi dans quelle mesure... dans quelle mesure l'industrie du jeu vidéo est aussi construite en fait sur ce travail domestique, étant donné que on parlait du crunch tout à l'heure, et que le crunch c'est aussi en fait ça pose aussi la question de la conjugalité des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, et que en fait quand des hommes au-delà de 30 ans travaillent très longtemps dans un studio de jeu vidéo, il y a probablement derrière une épouse qui gère les enfants, qui gère le foyer, etc. Et que même avec le télétravail, il y a d'autres problématiques qui se posent. Et que en général, c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours abordé dans l'industrie du jeu vidéo quand on parle des rapports sociaux de genre et des inégalités et des rapports de pouvoir dans l'industrie du jeu vidéo. Et c'est pour ça en fait que moi, je trouve ça toujours un peu ironique de voir des jeux sur ce sujet-là et qu'il y a très peu de réflexion finalement sur le travail domestique dans l'industrie du jeu vidéo qui dépasse même juste la question de la conjugalité, je pense aussi, et voilà. Enfin, je voulais juste faire cette petite intervention.
Beyond, oui, on t'écoute.
Moi, je voulais juste déjà remercier pour la chronique, pour le partage de ces deux jeux, parce que c'était vraiment trop cool. Et merci aussi d'avoir insisté sur le jeu de la Deconstruct Team, parce que j'aime beaucoup ce studio, et j'avais noté dans un coin de ma tête « Essays on Empathy », et là j'avoue que ça me donne énormément envie de découvrir tout ça, donc merci beaucoup.
Merci beaucoup Ash encore une fois, et maintenant on va passer à la suite et à la fin de l'émission avec le Blind Test. Liz, je te laisse le micro et les platines, mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous rappeler la thématique que tu as sélectionnée pour ce mois-ci ?
Ce mois-ci, on va retrouver nos fidèles compagnons canidés, les chiens, les toutous, les dogos. Si les jeux où on peut caresser le chien, le fameux pet the dog, sont monnaie courante, on va plutôt essayer aujourd'hui de parler de jeux où le personnage principal, ou en tout cas la thématique principale, est autour du chien. Et on va commencer avec un grand classique qui est sorti sur console japonaise en 2005.
Nintendogs ?
oui.
Je n'ai jamais joué à ce jeu, mais je me suis dit, bon, classique, console japonaise, bon, allez, go.
Ouais, j'ai hésité pas aussi aujourd'hui.
Ça sera ma seule intervention du blind test, je précise.
Ouais, dans ma tête, mon cerveau, il a fait un raccourci sorti seulement au Japon, et du coup, j'étais vraiment largué, mais effectivement.
Oui, donc il s'agit bien de Nintendogs avec Walking the Dog, qui est composé par Hajime Wakai, donc sur la Nintendo DS, et c'est un jeu de simulation d'animal virtuel. J'ai personnellement souvenir d'avoir été totalement fasciné par ce concept quand j'étais plus petite.
Le digne héritier des Tamagotchi.
C'est ça.
Mais c'était ouf, quoi. Enfin, le chien, tu lui disais assis, il s'asseyait et tout.
Ça fonctionnait avec le micro ?
Je crois qu'il y avait un truc avec le micro.
Ouais, ça fonctionnait avec le micro.
Wow, la classe.
On va passer sur un autre jeu qu'on pourrait rapprocher d'un Dog Simulator, sauf que cette fois-ci, c'est sorti sur PlayStation 2 en 2003.
Dog's Life.
Ah.
Ouais, bien joué. Vous avez
yes.
J'ai mis des trucs trop faciles, quoi.
Je ne connais absolument pas. Mais la musique est cool.
C'est le seul jeu avec des chiens que je connais. J'avais un copain qui l'avait sur PS2, je m'en souviens.
Il s'agit bien donc de Dog's Life. C'est le thème café ici qu'on retrouve, qui est signé par Alistair Lindsay. Dans Dog's Life, on incarne Jake. C'est un foxhound américain qui devra résoudre des petites énigmes. Le jeu propose un mode Smell-O-Vision où on passe de la vue troisième personne à une vue subjective grâce à laquelle le chien peut visualiser les odeurs.
Et chaque odeur a une couleur différente, d'ailleurs. Voilà. Quand j'étais gamin, je pensais que c'était comme ça qu'voyaient les chiens.
Trop mignon, Alex.
On passe sur un thème aux sonorités très synthé d'un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
Puppy Cross.
Puppy Cross, ah.
J'ai mis des trucs trop faciles, faut croire.
Ah, cette musique, les musiques de Puppy Cross, on les entend beaucoup en plus.
Puppy Cross qui est sorti en 2020 sur PC et Switch avec le morceau Moins de flics, plus de chiens de Rose, que je salue si elle passe par ici. Et oui, forcément, j'allais mettre Puppy Cross dans ce blind test puisque c'est un jeu de Picross sur le thème des canidés où on peut développer son petit parc avec plein de chiens, qui est développé par la team du dimanche. Et je sais pas si on nous a déjà reçus dans l'émission d'ailleurs.
Non, ça n'est pas encore arrivé.
Voilà, bah, c'est une très bonne suggestion. J'étais. Donc on continue sur les jeux sortis récemment, puisque le thème qui va suivre est issu d'un jeu qui est sorti l'an dernier.
Chicory.
Ouais.
Ah, on a un sniper en la personne de Beyond.
Alors à ma décharge, j'ai joué au jeu il n'y a pas si longtemps, et en plus j'ai utilisé cette musique pour ma prochaine vidéo, donc je la connais bien.
J'hésitais aussi. Donc c'est bien ça, c'est Supper Woods qui est composé par Lena Raine pour Chicory. Elle avait déjà composé la bande-son du redoutable Céleste. Et dans Chicory, on incarne un petit chien qui se retrouve à devoir redonner littéralement des couleurs au monde qui l'entoure suite à leur mystérieuse disparition. J'en avais pas parlé pour l'émission de Noël, mais pour moi, c'est devenu mon jeu de l'année 2021. C'était un vrai coup de cœur et je l'ai fait vraiment toute fin d'année. Et dernier son pour la fin, alors attention, je le mec, j'ai un petit peu triché pour celui-ci, mais je pense que les sonorités vont vite vous rappeler un certain pays.
Okami ?
Oui, c'est ça. C'est Amaterasu Returns dans Okami avec une bande-son signée Masami Ueda. Initialement, il est sorti en 2006 au Japon, puis il a ensuite été réédité en 2017 pour le plus grand plaisir de nos yeux, puisqu'il s'agit d'un jeu s'inspirant des estampes japonaises, où on va incarner Amaterasu, une déesse japonaise réincarnée en loup blanc. Et donc, si je fais le décompte des points, Alexandre a un point, et vous êtes à égalité, Jean et Beyond, avec deux points chacun.
Eh bien, merci. Merci pour ce blind test, Lys. Et merci à tout le monde pour votre participation. Avant de conclure, Alexandre, tu seras le prochain à assurer le blind test. Est-ce que tu as déjà ton sujet, ta thématique pour la prochaine fois ?
Oui, exactement. Ma thématique sera « C'est nul, mais la musique est cool ».
Excellent.
Parce que quand la musique est bonne, vous connaissez la suite.
Bah écoute, on verra ça pendant l'épisode
prochain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez écouté donc Une Heure et des Pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'Université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent, qui continue obstinément de nous sélectionner des OST de jeux japonais pour nos intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare, qui sera au montage. Merci à Alexandre, du coup, qui a assuré la technique et la réalisation durant cet épisode. Merci à Beyond, qu'on retrouvera en avril prochain pour sa seconde chronique. Et bien sûr, merci encore à Hugo, qui a honoré notre invitation. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous.
Merci, c'était un plaisir, c'était super bien. Et du coup, hâte d'entendre la version finale.
Toute l'équipe vous donne rendez-vous le 20 février pour notre prochaine émission, dans laquelle nous recevrons normalement Nicolas Lopez de la Bibliothèque Nationale de France, que nous devions déjà accueillir l'année précédente. Espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, encore une fois, bonne année, et on se quitte sur Scent of Love, composé par la Sami Sound Team pour Pachislot Bayonetta.